c'est l'heure du journal de Claire Flochel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. À la une ce matin, le déremboursement total de l'homéopathie. Le gouvernement a tranché. Le déremboursement sera progressif jusqu'en 2021. Explication dans un instant. Le gouvernement présente ce matin le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui doit permettre de réduire les déchets et d'améliorer le recyclage. Reportage à suivre dans une entreprise qui fait déjà de l'économie circulaire dans le secteur des jouets.
Dans votre journal également, qui sera le candidat officiel de La République En Marche pour la mairie de Paris? Réponse a priori ce soir.
Les trois prétendants, Cédric Villani, Benjamin Griveaux et Hugues Rançon, ont passé leur grand oral hier devant la commission d'investiture. En pleine crise politique, l'Algérie plongera-t-elle également dans une crise constitutionnelle? Le mandat du président algérien par intérim, Ben Salah, arrive à son terme aujourd'hui alors qu'aucune élection présidentielle n'est encore prévue. C'en est donc terminé des petits tubes de granules remboursés par la Sécurité sociale. La ministre de la Santé a tranché, l'homéopathie ne sera plus du tout prise en charge d'ici un an et demi. Le remboursement coûte à l'État 130 millions d'euros par an. Mais pour faire passer la pilule, la mesure sera progressive. Daniel Messager.
Un déremboursement total mais progressif avec le choix d'une période de transition. L'homéopathie ne sera plus prise en charge par l'assurance maladie qu'à 15% à partir du 1er janvier prochain, puis plus du tout au 1er janvier 2021. Le déremboursement est donc acté, c'est ce que souhaitait la ministre de la Santé, qui suit ainsi l'avis de la Haute Autorité de Santé. Celle-ci recommandait ce déremboursement pour cause de services médicaux rendus insuffisants. Mais les laboratoires, en particulier Boiron, qui ont mené une intense campagne de communication autour de la préservation de l'emploi, ne sont pas mis au pied du mur, même s'ils continuent à affirmer qu'on prive ainsi les Français d'une liberté de choix. Cette transition leur laisse le temps de se réorganiser, par exemple de modifier leur prix, car la TVA sans remboursement passera de 2 à 10%, les granules seront donc plus chers. Quant aux médecins opposés à l'usage de l'homéopathie, ils craignent un message un peu brouillé, études scientifiques à l'appui, ils auraient souhaité un arrêt clair, net et immédiat.
Daniel Messager. Trier, recycler, réparer et consigner. Le retour envisagé de la consigne à la française, mesure emblématique du projet de loi pour une économie circulaire présenté ce matin en Conseil des ministres. Le texte a pour objectif de réduire le gaspillage et notre volume de déchets. Il doit encourager autant que possible les réparations et le fait de donner une deuxième vie aux objets. C'est d'ailleurs ce que fait depuis 7 ans l'atelier Rejouer à Vitry-sur-Seine, qui n'a donc pas attendu le projet de loi. L'entreprise répare et remet en circuit des jouets. La fondatrice de Rejouer, Claire Tournefier, assure la visite avec Véronique Reberotte.
Donc ici, c'est la zone de réception des jouets qui sont collectés dans les entreprises, dans les écoles ou auprès des distributeurs.
Autour de nous, des piles de jouets. Ils attendent d'être triés, lavés, réparés, complétés, remis en état et au final vendus comme neufs ou presque. L'envie des parents de donner une seconde vie aux jouets de leurs enfants est de plus en plus grande.
Il y a cette préoccupation environnementale qui est vraiment de plus en plus présente dans les esprits et aussi dans les comportements, on le voit, parce qu'il y a plus en plus de dons.
Non, peut-être les piles ne fonctionnent pas, il faut vérifier d'abord les piles.
Claire Tournefier, fondatrice de Rejouer, se réjouit de la création dans le projet de loi économie circulaire d'une filière REP, autrement dit responsabilité élargie des producteurs. Elle doit contraindre les fabricants de jouets à penser le réemploi et le recyclage de leurs produits en fin de vie, une éco-conception bienvenue.
Alors, il y a une partie qui n'est pas recyclée malheureusement dans le jouet. Il y a beaucoup de produits qui sont multimatériaux et ça complexifie le recyclage. D'où une volonté de créer une nouvelle filière à responsabilité élargie du produit. Producteurs spécifiques sur les jouets pour qu'effectivement les producteurs, les fabricants pensent à une autre forme de fabrication qui permettrait le recyclage in fine. Pour l'instant, ça n'existe pas. Dès le début, il faut faire autrement parce qu'on ne peut pas continuer à produire autant de choses avec autant de matières qui sont quand même des matières issues de la pétrochimie. Les plastiques, c'est ça. Donc il faut quand même commencer à réfléchir à faire autrement pour faire une filière intelligente, responsable, qui soit source d'emploi aussi.
L'an dernier, Rejouer a collecté 65 tonnes de jouets, rien qu'en Île-de-France.
Bonjour madame, qu'est-ce que ce sera?
Et voilà, c'était les piles.
Reportage signé Véronique Reberotte. Les transports aériens et routiers mis à contribution pour financer les transports publics et le ferroviaire. Dès l'an prochain, le gouvernement veut instaurer une écotaxe sur les vols au départ de la France. Entre 1,50 euros et 18 euros de plus par billet sont exemptés de l'écotaxe les vols vers la Corse et l'Outre-mer, ainsi que les vols en correspondance. Air France est la première compagnie concernée et ses dirigeants n'ont pas tardé à dénoncer la mesure. Hakim Kasmi.
Avec cette taxe qui rapportera 182 millions d'euros par an, le gouvernement souhaite la réinvestir dans les infrastructures de transport plus écologiques, comme le ferroviaire. D'où la colère des compagnies aériennes, comme Air France, qui dénonce une concurrence déloyale. En effet, la compagnie a perdu l'année dernière 200 millions d'euros sur ses vols intérieurs, notamment à cause du TGV. Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France.
Nous boitons déjà pour avoir une concurrence parfois plus loyale. Nous avons sur le marché français une concurrence extrêmement forte du TGV, des low cost qui se sont particulièrement implantés cette année sur le marché domestique. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que toute nouvelle taxe sur le transport aérien devrait aider à la mutation du transport aérien vers un transport durable plutôt qu'aller financer des infrastructures routières ou ferroviaires qui bénéficient déjà largement de l'argent public, contrairement au transport aérien.
Cette mesure qui coûtera 60 millions d'euros par an à la compagnie risque à terme d'avoir des conséquences sur l'emploi, prévient déjà la direction. Mais rappelons qu'à la fin, ce sont les passagers qui devront payer cette taxe.
Hakim Kasmi et la ministre des Transports Elisabeth Borne a annoncé aussi hier la réduction de l'avantage fiscal sur le gasoil pour les poids lourds. L'ex-ministre Benjamin Griveaux, le mathématicien Cédric Villani ou le vice-président de l'Assemblée nationale Hugues Rançon, sauf coup de théâtre, l'un de ces trois hommes deviendra ce soir candidat de La République En Marche pour les municipales à Paris l'an prochain. Les trois élus ont été auditionnés hier après-midi par la Commission nationale d'investiture et ils estiment avoir livré une bonne prestation. Stéphane Robert.
Les trois candidats ont eu le sentiment d'avoir sérieusement pu défendre leur chance hier après-midi, à commencer par celui qui apparaît le plus en retard dans cette course à l'investiture, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon.
J'ai en tout cas eu le sentiment que les membres de la commission d'investiture étaient intéressés par ce que j'avais à leur dire et je veux saluer cette qualité d'écoute de la commission d'investiture pendant une heure et demie.
Même prudence du côté de Benjamin Griveaux, l'ex-porte-parole du gouvernement, considéré jusqu'ici comme le favori. Il ne s'est pas non plus trop avancé sur ses chances après sa prestation.
Moi j'étais content de pouvoir prendre ce temps-là d'échange avec les membres de la commission sur à la fois les convictions qui sont les miennes, sur le projet que je porte. C'est une commission extrêmement sérieuse et qui juge de la solidité des candidats qui se présentent devant elle.
Le député mathématicien Cédric Villani, lui, s'est dit confiant, mais il est apparu extrêmement tendu à l'issue de l'audition.
À l'issue de cet échange, j'ai acquis la conviction que je dois être investi pour apporter demain à Paris le renouvellement, un projet politique qui se base sur la nouveauté.
Alors qui aura réussi à convaincre les 13 membres présents hier après-midi de la commission d'investiture? Les jeux étaient-ils déjà faits en faveur de Benjamin Griveaux? Ou bien Cédric Villani a-t-il véritablement une chance? Réponse a priori ce soir, la commission d'investiture de La République En Marche doit rendre ses arbitrages pour Paris et pour une trentaine d'autres villes en France.
Stéphane Robert, y a-t-il eu un cartel de la compote, une entente sur les prix des purées du fruit entre Andros, Materne, Charles et Alice et Saint-Mamé? Ils vont devoir s'expliquer aujourd'hui devant l'autorité de la concurrence.
8h08 sur France Culture. Le procès d'une princesse hier à Paris. 6 mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre de la sœur du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman.
8 mois avec sursis aussi requis contre son garde du corps. Ils étaient jugés pour des violences sur un plombier qui intervenait dans l'appartement parisien de la princesse il y a 3 ans. Wafia Kenich.
Ça commence comme une jolie histoire, celle d'une princesse, d'un garde du corps et d'un plombier. Mais dans la salle d'audience, on oublie vite le conte de fées pour parler vol et séquestration. Au tribunal correctionnel de Paris, la princesse Assa bin Salman et le plombier sont absents. Face à la cour, Rani Saïdi, le garde du corps, est lui venu, entouré de sa femme et de ses deux fils. L'homme de 47 ans est accusé d'avoir frappé et ligoté cet artisan à la demande de sa patronne, sous prétexte que le plombier aurait tenté de réaliser des clichés volés de la princesse. Un visage qui n'a pas été officiellement pris en photo depuis ses 8 ans, elle en a aujourd'hui 42. L'artisan dit donc avoir été frappé quand la fille Saou et son garde du corps affirment ne jamais avoir usé de violence. Les 14 témoins présents dans l'appartement ont tous déclaré qu'aucun coup n'avait été donné ce jour-là. Le plombier a porté plainte, un médecin a prescrit à l'homme 5 jours d'arrêt de travail. La procureure a insisté sur le traumatisme psychique de cette agression. Emmanuel Moine, l'avocat de la princesse, a contesté cette version. Il est tellement traumatisé, a-t-il dit, qu'il ne perd pas le nord. Il revient quelques jours après les faits pour présenter sa facture. Yacine Bouzrou, l'avocat de l'agent de protection, a aussi évoqué le rôle de la presse, qui s'est emparée de l'affaire 2 jours seulement après le dépôt de plainte, ainsi qu'une instruction qu'il estime à charge.
Le jugement sera rendu le 12 septembre. L'Iran, au centre d'une réunion extraordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, convoquée aujourd'hui sur demande des États-Unis, parce que Téhéran a commencé à enrichir son uranium au-delà de ce que prévoit l'accord de 2015 sur le nucléaire. L'AIEA va faire le point sur ce qu'elle sait. Christian Chéneau.
C'est le régime d'inspection le plus sévère au monde. Depuis la signature de l'accord de Vienne, le programme nucléaire iranien est surveillé à la loupe par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des caméras sont installées sur les différents sites nucléaires, notamment ceux de Natanz et de Fordo. Des centaines de milliers d'images prises chaque jour sont analysées par les experts de l'agence. Plus de 2000 scellés ont aussi été posés sur des équipements techniques. Les lignées de l'AIEA vérifient les installations iraniennes lors de visites régulières ou d'inspections spéciales. Ils prélèvent des échantillons qui sont analysés au siège de l'agence à Vienne, procèdent à des sondages aléatoires pour évaluer l'évolution du programme atomique iranien. Tout est comptabilisé, les flux et les stocks de matières nucléaires. Les inspecteurs ont un libre accès à tous les recoins des installations, notamment le parc de centrifugeuses. Tous les 3 mois, ils publient un rapport d'étape de l'application de l'accord de Vienne par l'Iran. Après l'annonce de Téhéran de ne plus respecter certains de ses engagements, l'AIEA assure que ce système draconien de surveillance continuera à fonctionner.
Et Christian Chéneau. En Algérie, le mandat du président par intérim a expiré hier soir. Abdelkader Ben Salah devait prendre les rênes du pays pour 90 jours après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Mais le président par intérim ne quittera pas son poste. L'annonce avait déjà été faite lors de l'annulation de l'élection du 4 juillet. Et la situation pourrait bien rester telle qu'elle tant que de nouvelles élections ne sont pas organisées. À Alger, Leïla Beratou.
Pour le moment, les discussions se mènent au sein de l'opposition. La dernière initiative a réuni ce week-end les partis politiques de tendance nationaliste et islamiste, dont Ali Benflis, ancien Premier ministre.
Nous sommes une partie de l'opposition. Nous ne sommes pas toute l'opposition. Nous n'avons pas la prétention de représenter le peuple, de dire que nous sommes la seule opposition. C'est inexact. Nous, notre choix, c'est d'aller vers une présidentielle honnête et propre.
En parallèle, 2 autres initiatives, les partis de tendance démocrate et un groupe de la société civile qui a réussi à réunir syndicats autonomes, collectifs et associations. Pour l'instant, ces 3 groupes sont divisés, mais ils tentent de discuter ensemble. Face à eux, les autorités veulent un dialogue pour aller vers des élections le plus vite possible. Mauvaise idée pour Abdelaziz Rahabi, coordinateur de la réunion de l'opposition de samedi dernier.
Les Algériens n'iront pas voter aujourd'hui. Les Algériens iront voter quand ils prendront conscience de la sincérité du discours officiel, quand ils prendront conscience de la garantie que ce processus ne serait pas entaché par la fraude. Et ils voteront aussi quand ils seront conscients que leur voix ne sera pas volée.
Les partis d'opposition et la société civile demandent par ailleurs que des mesures d'apaisement soient prises avant toute négociation. Ils demandent notamment la libération des détenus d'opinion.
Reportage de Leïla Berato, correspondante de France Culture en Algérie. Direction l'Irak maintenant et la ville de Mossoul qui célèbre aujourd'hui le 2e anniversaire de sa libération. Le 10 juillet 2017, les djihadistes de Daesh sont officiellement chassés de ce qu'ils considèrent comme la capitale irakienne de leur califat. La fin d'une bataille dévastatrice, la vieille ville est presque entièrement détruite. Alors 2 ans après, France Culture est retournée à Mossoul et dans ce cœur historique qui reste un champ de ruines. C'est un reportage de notre envoyé spécial Noé Pignède.
C'est un dédale de ruelles où s'entassent les gravats, une succession de bâtiments éventrés, désertés par les habitants. 2 ans après la libération, la vieille ville de Mossoul ressemble toujours à un champ de bataille. Les yeux humides, Abdelkarim est debout sur un tas de pierres, les restes de son ancienne maison.
Ma famille habitait ici depuis 7 générations. La cave voûtée que vous apercevez en dessous des décombres, juste là, avait plus de 600 ans. Bombarder le quartier, c'était la pire des solutions pour nous libérer. Tous les civils étaient coincés ici avec Daesh. Les djihadistes étaient cachés dans cette rue, mais au lieu d'envoyer des soldats pour les tuer, ils ont préféré tout raser.
Malgré ces nombreuses demandes, les gravats de la maison d'Abdelkarim Karim n'ont toujours pas été déblayés. Ce père de 4 enfants désespère de pouvoir rentrer un jour chez lui.
La vie ne reviendra jamais dans la vieille ville de Mossoul. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles, tout est détruit. Il n'y a plus de services publics, aucune aide, pas de travail. Les seules personnes qui reviennent vivre ici sont les plus pauvres, car ils n'ont nulle part d'autre où aller.
Faute d'argent pour rebâtir leur maison, 300 000 Mossouliotes vivent toujours dans des camps de déplacés. Selon un rapport de l'agence irakienne de lutte contre la corruption, 64 millions de dollars destinés à reconstruire la ville auraient été détournés par le gouvernement.
Noé Pignet, envoyé spécial de France Culture en Irak. On termine par la météo de ce mercredi. Quelques averses sur la Corse et sur le sud-est de la France. Le ciel sera variable sur la Normandie et la Bretagne. Partout ailleurs, la journée sera bien ensoleillée. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 22 degrés.